guerre. Alors en 2022, je vous rappelle, parce que ça paraît très très loin cette guerre-là, en Ukraine, sauf malheureusement pour les Ukrainiens, elle a secoué l'économie, elle a secoué les marchés, flambé des matières premières, flambé de l'inflation, chute des bourses, et puis on a tout effacé en un an, hein, je vous rappelle, prenons un exemple emblématique, hein, le gaz, il est au-dessous du niveau de l'inflation, de l'invasion en Ukraine. L'Ukraine est de moins en moins évoquée, c'est, je ne sais pas si c'est triste ou une réalité, dans les JT ou sur les marchés. La guerre en Ukraine, est-ce que c'est toujours un facteur géopolitique, Ben Aouda ? Parce qu'on a vraiment l'impression, en tout cas, on va en parler dans l'économie et dans les marchés, que pour l'économie et les marchés, c'est plus un sujet. Ce qui est quand même très étonnant quand on voit l'impact que ça a eu l'année dernière.
C'est quand même effectivement étonnant. Lorsque vous voyez que le ministre de la Défense britannique envoie et est en train d'envoyer des missiles de plus de 250 km de portée, c'est-à-dire capables de toucher en profondeur les dispositifs russes. Lorsque vous voyez par ailleurs que le président, toujours cette semaine, hein, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, retarde sa contre-offensive tant annoncée du printemps, en expliquant qu'il n'a pas encore reçu suffisamment d'armement et de munitions. Lorsque vous voyez que ça devient vraiment une question pivot dans l'opinion publique américaine. En mars, un sondage, une enquête d'opinion de YouGov est passé assez inaperçu, où 51% de l'électorat de Donald Trump a estimé que les États-Unis aidaient trop militairement les Ukrainiens, et que vous avez vu...
Lui, il l'a dit lui-même.
Il l'a dit lui-même. Ça. La question l'a été posée.
Oui. Il a été très clair. Hein.
Alors, il a été évasif. Pour qui voulez-vous voir gagner ? Est-ce que la Russie ou l'Ukraine ? Il a refusé de répondre.
Oui, mais c'est donc... Il a été très clair.
Exactement.
Il ne veut pas s'en mêler, quoi.
Et c'est d'autant plus important que, toujours une autre enquête d'opinion, pour ABC News et Washington Post, élection présidentielle 2024... Ouais. Face à Joe Biden, il est à 7 points devant. Et surtout, ce qui est frappant, c'est de voir que l'appréciation générale, y compris auprès des électeurs indépendants, c'est-à-dire l'électorat pivot, va dans le sens de Donald Trump, premier point, que même sa gestion économique est jugée bien supérieure à celle de Joe Biden. C'est vous dire si dans les semaines et les mois à venir, cette question ukrainienne, cette guerre sur le sol européen va rester très importante.
Donc c'est encore une question importante géopolitique. Le rôle de la Chine, très rapidement.
La semaine prochaine, lundi, le représentant spécial du président Xi Jinping se rend en Pologne, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Ukraine. Et en Ukraine, c'est très important pour apporter sa contribution, si je puis dire, la contribution de la Chine dans ce conflit. Donc, la Chine entre aussi dans le jeu. Et là aussi, il va falloir s'attendre à des évolutions majeures.
Ils peuvent obtenir une trêve, les Chinois ?
Ce sont à peu près les seuls en mesure de dire aux Russes d'écouter les Ukrainiens, et que les Ukrainiens écoutent de ce fait les Chinois, parce qu'ils se disent que ce sont les seuls qui sont capables, non pas de faire plier, mais d'orienter le conflit en Russie.
Jean-Marc Daniel, la guerre en Ukraine, c'est encore un sujet économique où on doit passer outre ?
Oui, je pense que c'est encore un sujet économique. D'abord, sur les matières premières, effectivement, le choc est derrière nous. Maintenant, le prix du blé, on est même dans une situation où un certain nombre de pays en Europe de l'Est disent arrêter d'envoyer du blé ukrainien, d'importer du blé ukrainien, on ne sait pas quoi faire du blé. Et de même sur le prix de l'énergie, on est dans...
Oui, ça peut revenir cet hiver, non ?
Alors, ça peut revenir cet hiver. Ce qui est frappant quand même dans cette guerre, c'est qu'on a à la fois des drones, des... Et puis, il y en a des gens qui se battent à la baïonnette dans des tranchées. On est en train de parler d'un nouveau Verdun dans l'Est de l'Ukraine en ce moment, à Bakhmut, parce que effectivement c'est quand même encore un combat qui est un combat extrêmement rude et primitif. Alors sur le plan strictement économique, moi ce qui m'intéresse c'est la réaction et la réactivité de l'économie russe. Oui. C'est-à-dire c'était quand même la 12e économie mondiale avant le conflit, et puisque je parle tout le temps d'histoire, je cite assez souvent ce qu'avait fait Adolphe Blanqui sur le blocus continental. Il disait en fait, en faisant le blocus continental de l'Angleterre, on aura eu deux résultats. Le premier résultat, c'est de créer des états contrebandiers. Il y a des gens qui vont aller voir les Anglais et vont essayer de contourner le blocus et vont créer ce qu'on appelle des états contrebandiers. Et là, typiquement, l'Inde est un état contrebandier. C'est-à-dire que l'Inde est entre...
Et les monarchies du Golfe qui rachètent du pétrole russe pour le revendre.
Et donc, il dit bien que le véritable problème pour celui qui engage une guerre économique, c'est comment il va maîtriser les états contrebandiers. Et Napoléon n'y est pas arrivé. Je pense qu'on n'arrivera pas à maîtriser les états contrebandiers. Et la deuxième chose, c'est la capacité qu'a le le pays qui est concerné par le blocus, qui est entouré, a réadapté son appareil productif et il dit la grande erreur, c'est de mettre tout le monde dans l'armée, de faire de tout le monde des officiers, alors que pour arriver à ce résultat, il faut garder des ingénieurs. Et je pense qu'un des problèmes de la Russie, c'est qu'aussi elle est en train de transformer son élite, soit en exilé, soit en officier. Et donc, elle, là, elle va souffrir beaucoup plus qu'on ne le pense dans les années
nous,
à venir.
Nous, en Europe, vous nous dites, bon, pas d'inquiétude. Enfin, évidemment, s'il y a des dérapages majeurs, mais vous nous dites, moi, économiste, bon, je réfléchis plus d'un point de vue d'une perspective historique économique.
Non, mais écoutez, le 1% de croissance annoncé pour la France dans la loi de finances est, à mon avis, est tout à fait accessible. Et le Fonds monétaire international, dans ses prévisions, a dit, écoutez, on aura une croissance mondiale aux alentours de 3%. C'est un des pires scores qu'on ait connu depuis la création du fonds. Mais de notre côté, c'est pas la récession. Donc, au niveau mondial...
C'est vrai qu'ici même, on parlait de hard landing, de récession, et finalement, il ne s'est rien passé. Vous vouliez dire quelque chose?
Oui, juste pour dire que l'État contrebandier en question va être appelé à devenir la troisième économie mondiale. Donc, autant vous pouvez jouer avec des petits, autant avec l'Inde, ça va être très difficile de les faire plier d'une manière ou d'une autre.
Les gérants, ils regardent encore la guerre en Ukraine ou...
Évidemment,
on met le côté humain à part.
À mon sens, oui, parce que... Alors, deux choses. Un, ça accélère, à mon avis, là, pour le coup, Ben Aouda pourra rajouter s'il veut, mais la construction de deux blocs, bloc occidental versus un bloc Russie, Chine, qui se reconstitue et qui veut prendre la suprématie sur la valeur du dollar à l'international et son usage. Et puis, sur les changements durables que cette guerre provoque, pour moi, c'est une démondialisation qui va être accélérée avec le sujet de souveraineté nationale, le sujet de la production, de protectionnisme, qui fait que ça va être en fait, entraîner des gros sujets durables, en fait, et des gros changements.
C'est pas du bidon, ça, cette histoire de protectionnisme. Réindustrialisation.
La réindustrialisation,
c'est bidon.
Le néoprotectionnisme, c'est assez bidon. Je pense que de même.
C'est des effets de manche.
C'est des effets de manche. Alors, notre président de la République a un côté caméléon. Donc, il y a 10 ans, il parlait de Startup Nation. Il allait à Las Vegas. Il était fasciné par les drones et tout ça. Et son prédécesseur disait, can you see the fusée, parce qu'il savait, il avait une vision de la mondialisation assez personnelle. Mais je pense que fondamentalement, il y a de telles interdépendances qu'il est très difficile de remettre ça en cause, et notamment sur le dollar. Je pense que le dollar a toujours vocation à être la monnaie mondiale, la monnaie internationale. Moi, ce qui me frappe...
Compte tenu de la domination presque écrasante post-guerre en Ukraine,
Et puis, en plus, comme il y a un tel déficit extérieur des Américains, que tout le monde est inondé de dollars, et donc la matière première est là. Quand on parle du yuan, par exemple, le problème du yuan, c'est que, un, il n'est pas directement convertible, et deux, il y en a assez peu qui circulent à la surface de la planète, puisque les Chinois, ils ont plutôt tendance à vendre qu'à acheter.